Et cet invité, c'est l'économiste Élie Cohen. Bonjour Élie Cohen.
Bonjour.
Vous co-signez avec Richard Robert cet essai qui a pour titre « La valse européenne », un livre qui explore les différentes crises que l'Europe a connues, y compris la dernière, avec une question qui traverse les 450 pages de ce livre. Qu'est-ce que cette Europe qui semble parfois patiner, qui semble parfois inadaptée au changement, qu'est-ce que cette Europe peut apprendre de toutes ces crises? Et puis vous nous direz donc quelles sont les conditions pour redonner un nouvel élan ou en tout cas des perspectives à cette future Europe. Alors, cette valse européenne, pour reprendre le titre de votre livre, c'est une valse à trois temps, écrivez-vous, car quelles que soient les crises, elles obéissent toujours à un même modèle ternaire. Et au premier temps de la valse, comme chantait Jacques Brel, il y a toujours comme une déception. C'est une vieille dame qui dit d'abord non, avant de dire oui.
Absolument, c'est ce qui est très frappant. Si vous voulez, c'est que, à l'égard de l'Europe, les attentes sont toujours considérables et les déceptions sont toujours considérables dans un premier temps. Alors, c'est une espèce d'énigme. Pourquoi ? Si vous voulez, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu la crise de l'euro, la première réaction, ça a été de dire les Grecs dépensent trop d'argent, ils pensent plus à consommer de l'ouzo qu'à gérer régulièrement leur budget, ils trichent sur leurs chiffres. Et les premières réactions de la presse populaire allemande avaient été terribles. C'était de dire aux Grecs, mettez-vous à la diète, vendez vos îles, adoptez un mode de vie plus adapté, comportez-vous comme des Européens, non pas comme je ne sais quoi.
Et puis l'Europe a changé de ton.
Alors, dans un premier temps, l'Europe a dit, on va aider la Grèce, mais on va mettre en place un dispositif qui est conçu pour ne pas servir. Parce que quand même, il faut pas dépasser les traits rouges, il faut pas apporter un soutien budgétaire à un pays qui a mal géré son budget. D'ailleurs, c'est contraire à notre traité. On peut pas venir en aide à un pays en difficulté. Et puis, si vraiment c'est nécessaire pour sauver l'Europe, on mettra en place un dispositif, mais de manière parcimonieuse. Et puis, comme la crise continue à se développer, on a dit bon, on va aider la Grèce, mais il faut vraiment que la Grèce sente qu'elle a mal géré ses affaires. Donc, on va lui prêter de l'argent, mais à des taux punitifs. Et on va mettre en place une troïka qui va surveiller la gestion du pays pour que le pays se remette sur de bons rails. Puis, comme la crise continue à se développer, on a mis en place un premier plan d'aide d'une importance considérable en fixant à la Grèce des conditions pour revenir à la vertu budgétaire très rapidement. La Grèce a pris des mesures d'austérité, etc. Puis comme ça ne réglait toujours pas le problème, on a mis en place un deuxième plan, et puis un troisième plan, je vous passe les détails. Et puis à la fin, on s'est dit, mais après tout, peut-être que de cette crise peut naître un bien. Peut-être que de cette crise, on peut rebondir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre en place un fonds permanent qui vienne aider les États en difficulté, à condition, bien entendu, qu'il se restructure, c'est le fameux volet des réformes structurelles, et à condition qu'il puisse retrouver la voie du consensus européen. Vous voyez, trois temps. Premier temps, réaction calamiteuse. Deuxième temps, on aide
en
urgence.
Place.
Troisième temps, servons-nous de cette opportunité.
Et si on fait le parallèle donc de cette Europe qui patine avant de devenir vertueux, si on le fait parallèle avec le besoin de vaccins, l'Europe n'a pas réussi d'abord à s'imposer face aux laboratoires pharmaceutiques qui, eux, ont préféré signer vite avec les plus offrants. Comment est-ce que ce faux pas européen pourrait-il finalement servir l'Europe ? Je vois pas bien.
Et pourquoi, d'ailleurs, est-ce que l'Europe, enfin l'Union européenne, n'a pas de compétences en matière de santé ?
Alors, c'est on va en parler après, mais d'abord
absurde.
Juste
c'est une
sur
très bonne question. Bah, je vous rappelle que quand la crise a démarré, là aussi le premier réflexe a été calamiteux. L'Italie avait besoin urgemment de masques, de respirateurs.
Des images dévastatrices.
On a limité les exportations vers l'Italie. Et on a assisté à ce spectacle terrifiant de voir les Chinois, les Cubains et les Russes venir en aide aux Italiens. Et donc cette image-là, et pire encore, souvenez-vous, sur le tarmac d'un aéroport à Prague, on volait des masques qui étaient destinés à l'Italie. Donc, première image, abominable. J'ajoute que d'un point de vue économique, le premier réflexe de Madame Lagarde, patronne de la Banque Centrale, c'était de dire, les taux flambent en Italie, mais nous on ne va pas intervenir, c'est pas notre rôle d'intervenir sur les spreads de taux italiens. La Commission européenne, elle, silence total. Et puis, cette image de la division européenne a été insupportable et l'Europe a décidé d'intervenir alors que, j'insiste, la politique sanitaire ne fait pas partie des compétences européennes.
Et pourquoi ?
Mais non, ça ne fait pas partie du traité.
Et ça ne pourrait pas.
Je vous signale que...
Le traité, on peut changer les traités.
Tout à fait. Mais je vous signale que le père fondateur de l'Union européenne avait toujours dit que s'il fallait réinventer l'Europe, on commencerait par la politique de la culture.
La culture.
Peut-être que s'il fallait réinventer l'Europe, on commencerait par la politique sanitaire.
Cela mais dit, il y a des différents plans santé. Il y en a 6, je crois.
D'accord. Mais il n'empêche qu'au moment où la crise est déclenchée, il n'y a pas de politique sanitaire. Donc on va inventer une politique sanitaire dans l'urgence. Alors, il faut bien voir.
Mais ça veut dire que ça fonctionne en fonction des contingences.
Absolument. Il y a une crise, donc c'est intolérable politiquement. Les opinions publiques font dépression, donc on décide d'improviser une politique sanitaire. Juste pour que vous voyez la différence, donc on va nommer une responsable pour négocier l'achat de vaccins, parce qu'on se dit, il vaut mieux acheter des vaccins en commun que de les acheter séparément, parce que sinon, c'est les plus riches qui vont pouvoir s'équiper et les autres n'auront rien. Donc on décide de mettre en place cette politique, mais c'est une politique totalement nouvelle. Juste une comparaison, au même moment aux États-Unis, le président Trump désigne un responsable, Moncef Slaoui, et lui donne comme mandat d'acheter préventivement tous les vaccins possibles en finançant les recherches, les développements, les fabrications, les essais cliniques, et il met sur la table d'emblée 10 milliards de dollars. En face, en Europe, il n'y a rien.
La différence, c'est que l'Europe n'est pas un État.
L'Europe n'est pas un État.
Donc elle ne peut pas décider facilement
et premièrement.
Rapidement.
Et deuxièmement, et surtout, l'Europe ne peut pas décider dans l'urgence. Elle ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, décider dans l'urgence. Et surtout, elle n'a pas les moyens pour décider d'un état de guerre, ce qui a été fait par exemple aux États-Unis, pour mobiliser des usines, pour contraindre certaines parties à livrer des composants de vaccins, etc. Tout ça n'existe pas dans la panoplie. Et donc,
De toute façon, il n'y a pas intérêt non plus, pardonnez-moi, mais puisqu'il n'y a pas de défense européenne, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'armée européenne. Non
exactement.
Plus.
C'est donc dans l'urgence qu'on va inventer ça. Alors, dans l'urgence, on confie un mandat à une négociatrice pour aller acheter les différents vaccins. Cette négociatrice, elle est soumise aux pressions des différents États. Pression française. Ah, il faut quand même que vous commandiez des vaccins français. Pression allemande. Nous avons déjà quelqu'un qui fait un très bon travail, c'est BioNTech. Et nous les avons aidés d'ailleurs à développer leur vaccin. Donc il faudrait que vous en teniez compte. Donc la négociatrice européenne va devoir tenir compte à la fois des demandes des différents États européens et d'une pression générale qui est, un, nous voulons les prix les plus bas. Deux, nous ne voulons surtout pas que les big pharma s'exonèrent de leurs responsabilités. Donc on veut qu'ils soient tenus par leurs responsabilités. Trois, nous voulons que... disposer en même temps que les États-Unis des vaccins lorsqu'ils seront disponibles, alors même que nous ne les avons pas financés. Vous voyez un peu la situation dans laquelle s'est trouvée cette négociatrice.
Eh bien, pour reprendre la théorie de votre livre, puisque l'Europe qui patine d'abord devient vertueuse ensuite, qu'est-ce que l'Europe doit apprendre de cette séquence ?
Eh bien voilà, l'Europe décide maintenant que la politique sanitaire doit être un des blocs de la future politique européenne. Et pour cela, il faut combiner trois aspects. Un premier aspect qui est financer la recherche et le développement, c'est-à-dire se situer en amont même de la conception et de la production de vaccins, c'est-à-dire la recherche que nous n'avons pas financée par le passé, à la différence des États-Unis, eh bien, il va falloir le faire. Donc, on a décidé de créer un organisme équivalent au BARDA américain.
C'est l'ERA européen.
Donc voilà, nous avons conçu cet outil-là. Deuxièmement, nous avons découvert que les chaînes de valeur mondiales de production de médicaments et de vaccins comportaient des trous massifs en Europe. Donc nous avons décidé de reconstituer ces chaînes de valeur en relocalisant certaines activités. Puis troisièmement, nous nous sommes donné les moyens d'une coordination des politiques de santé européennes, par exemple pour gérer les états d'urgence, pour mutualiser les moyens. Et donc sur les trois volets, nous lançons les bases d'une politique sanitaire intégrée.
Et c'est aussi la question de la souveraineté, Eli Cohen, que vous interrogez dans votre livre. Ces souverainetés qui font tanguer le vaisseau européen. Et vous défendez l'idée toute macronienne, l'idée d'une souveraineté européenne en même temps, élue en même temps à son sens macronien, européenne en même temps que nationale. Qu'est-ce qu'une souveraineté européenne ?
Eh bien écoutez, ça a été un des grands points d'interrogation et de réflexion dans mon cas. Parce que bon, le premier constat, c'est que sur tous les grands sujets, les défis écologiques, de défense, de sécurité, etc., la bonne unité d'intervention, c'est bien entendu l'Europe. Et pourtant, on n'y arrive pas.
Il y a un peuple européen ?
Non, justement, c'est toute la difficulté. On n'y arrive pas. On se dit depuis longtemps que la bonne réponse est européenne, mais on n'y arrive pas. Donc, question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'y arrive pas? Et pourquoi on y arrive dans certains domaines? C'est ça la question que je me suis posée. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais au fond, l'Europe, c'est une structure que différents pays européens se sont donnés pour peser collectivement plus lourd qu'ils ne pèsent individuellement. Et donc, la piste intéressante, à mon avis, c'est de dire que l'Europe est au service des États-nations et constitue une espèce de multiplicateur de puissance des États-nations. Disant cela, ça veut dire que l'Europe est en permanence surveillée par les différents États-nations et que les transferts de souveraineté qui sont faits au niveau européen sont chaque fois calculés. Et ils sont calculés de telle sorte que les États-nations ne soient pas dépourvus de moyens d'intervention. Et donc, ce qui justifie ce transfert, c'est chaque fois les situations de crise où on découvre à l'expérience qu'on sait mieux agir collectivement qu'individuellement. Ce qui veut dire que la question est tout le temps posée. Si, par exemple, on assiste à un échec massif de cette opération vaccination, un certain nombre de gens vont dire « Mais est-ce une bonne idée de transférer au niveau européen cette compétence sanitaire ? Peut-être fallait-il la laisser au niveau national ?» Donc c'est cette tension, chaque fois, entre le niveau national et le niveau européen, cette tension entre les États assemblés et les États agissant individuellement, qui me semble être particulièrement féconde pour comprendre la dynamique interne de la construction
c'est
européenne.
C'est la façon de voir le verre à moitié plein.
Et ce curseur, ce curseur entre le national et l'européen, enfin la souveraineté et le national, ce curseur, c'est à chacun des pays de le mettre. Ça vient du bas maintenant.
C'est-à-dire que c'est à chaque pays de dire jusqu'où il veut aller dans les transferts de compétences. Et ce qu'on constate, c'est que ce sont des batailles homériques. Juste un exemple majeur. Ça fait 20 ans que le thème central du débat politique en Allemagne, ça consiste à dire « nous ne voulons pas d'une union de transfert ». C'est-à-dire « nous ne voulons pas d'une situation où l'Allemagne, structurellement, viendrait aider les pays les plus faibles. Nous n'en voulons pas ». Et puis, à la faveur de la crise que nous venons de connaître, l'union de transfert a été créée, de fait sans qu'on le dise, le fameux plan de 750 milliards d'euros qui va aboutir à un transfert à l'Italie, par exemple, sous forme de quasi-subvention de 200 milliards d'euros, c'est quelque chose qui était inimaginable il y a un an.
Sauf que Angela Merkel est en fin de mandat et qu'elle a peut-être accepté des choses aussi parce que c'est la fin de son mandat.
Certes, mais en tout cas, ce fonds de 750 milliards a été créé, petit 1. Petit 2, nous avons décidé de créer de nouvelles ressources fiscales européennes. Petit 3, nous l'avons annexé au budget européen, c'est-à-dire il y a un début de pérennisation.
Une politisation de l'Europe qui est au détriment, heureusement, de la bureaucratie, parce que c'est aussi comme ça qu'elle est vue.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dénoncer la bureaucratie européenne.
Avoir vraiment tort de le faire.
Oui, mais vous avez raison. Mais en même temps, il y a ce que j'appelle des mouvements constituants, c'est-à-dire des moments où, à la faveur d'une crise, on déplace le curseur et on avance d'un pas dans l'intégration. Et du coup, on crée de nouvelles institutions qui s'installent dans la durée. Regardez, par exemple, le Conseil européen, au départ, ça avait été voulu comme un lieu de débat informel entre les chefs d'État. Et puis, c'est devenu, avec le temps, une instance de gouvernance européenne qui a pris un poids et qui finit par définir des orientations.
Justement, est-ce que ce sont désormais les chefs de l'État et de gouvernement qui doivent plus décider et rendre les institutions comme des outils et non plus des instances décisionnaires?
Oui, mais là aussi, ce serait à courte vue, parce que ça voudrait dire qu'au Conseil européen ne s'imposent que des logiques nationales. Or, on constate que lorsque les chefs d'État européens sont réunis entre eux, ils savent dépasser les intérêts de leurs nations respectives. C'est cette dualité, si vous voulez, c'est cette tension en permanence entre défense des intérêts nationaux et défense de cette entité nouvelle qu'est l'Europe, qui est une entité pacifique, qui n'a pas de précédent historique, qui fait que cette dynamique est à l'œuvre et que, alors qu'à chaque crise, on dit que le risque de régression et de démantèlement est majeur, eh bien, à chaque crise, on fait une avancée. Regardez juste la crise de l'euro. De très grands économistes comme Stiglitz, Krugman, etc. ont dit, voilà, l'Europe ne va pas tenir, elle va éclater, parce que la politique d'austérité qui a été imposée à un certain pays est un contresens économique. Eh bien, on est sorti de la crise, non seulement sans démantèlement de l'euro, mais avec de nouvelles règles budgétaires, un nouveau fonds d'intervention, une union bancaire, et maintenant on est en train de sortir de la crise actuelle avec une union sanitaire.
L'union bancaire dont ne voulait pas l'Allemagne, et qui là encore, l'Allemagne
Exactement.
Se met au pas pour le bien de l'union. Vous écrivez dans votre livre donc que plusieurs crises ont fait évoluer les mentalités, on va pas toutes les passer en revue. Crise des subprimes 2008, suivie de la crise de l'euro, vous en parliez jusqu'en 2012, la crise migratoire, le Brexit, plus récemment la crise sanitaire. Et puis il y a une autre crise, c'est Donald Trump, qui a, par son non-respect des conventions et des règles, imposé des normes. Comment l'Europe s'est construite sur ou contre Donald Trump ?
Là aussi, c'est un cas intéressant, parce qu'il se trouve que la compétence commerciale, elle, est une compétence purement européenne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque M. Trump a dit « Je trouve insupportable de croiser des BMW partout aux États-Unis et de ne pas croiser des Ford en Allemagne, et donc je vais attaquer l'industrie automobile allemande ». Qu'a dit Mme Merkel ? Elle a dit « Ah, c'est très simple, le commerce, c'est pas une compétence allemande, c'est une compétence européenne. Donc, il va falloir que vous négociez avec les représentants européens ». Et donc, il y a eu toute une série de délégations qui sont allées aux États-Unis. On a négocié, et puis vous avez vu, l'Allemagne n'a pas appliqué de sanctions. Les États-Unis n'ont pas appliqué de sanctions à l'égard de l'Allemagne sur l'automobile. Et du coup, l'Allemagne a demandé à ses partenaires européens de ne pas intervenir massivement non plus sur les plateformes Internet, parce qu'il y avait un certain nombre de pays européens qui voulaient brider le développement des plateformes Internet. Donc, vous voyez, c'est une espèce de jeu de puissance, là, entre l'Europe intégrée et négociant d'une seule voix, et les États-Unis, alors que la stratégie de Trump, c'était de diviser les différents pays européens.
Et face à la Chine, le défi chinois est un des défis que vous nommez, d'ailleurs.
Alors, voilà, ça, c'est le grand défi pour, je dirais, les 10 ou 20 ans qui viennent. C'est-à-dire, on voit bien que les États-Unis veulent enrôler l'Europe dans leur combat contre la Chine, en essayant de refonder un ordre international dans lequel les chaînes de valeur mondiales seraient progressivement démantelées, l'attitude vis-à-vis de la Chine deviendrait plus dure, et à la fois économiquement, commercialement, mais également géopolitiquement, stratégiquement et militairement, quand on voit ce qui se passe avec le risque Taïwan, etc. Pour le moment, l'Europe ne s'est pas alignée sur les États-Unis. L'Europe vient même de signer un grand accord avec la Chine sur les investissements. En gros, on a trouvé des règles communes pour ouvrir davantage encore les marchés européens et chinois aux investissements européens et chinois. Mais ça, c'est la grande question. L'Europe se rêverait comme un intermédiaire multilatéral entre les États-Unis et la Chine.
Il faut qu'elle sorte de ce rôle d'intermédiaire, il faut qu'elle se construise un vrai marché, vous l'écrivez dans votre livre. Vous donnez quelques pistes dans ce livre pour l'avenir industriel de l'Europe. C'est un avenir en déclin aujourd'hui. L'Europe, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous décrivez dans votre livre que c'est un déclin à la fois industriel et diplomatique. Pour l'industrie, vous préconisez par exemple de pourchasser les monopoles numériques. Mais avec quelles armes ?
Ah ben justement, là, une arme qui a remarquablement fonctionné dans la discrétion, c'est l'autorité de régulation concurrentielle européenne qui a déjà pris des décisions très sévères à l'égard d'Apple, à l'égard de Google, et qui donc est en train d'instruire des dossiers.
Est-ce que ça fait un marché, ça, pour autant ? Régulé d'un côté, probablement,
oui.
Mais est-ce que ça fait un marché européen ?
Ah ben, il y a déjà le volet régulation. Après, il y a toutes les politiques, ce qu'on appelle les PIEC, c'est-à-dire les programmes d'intérêt européen, qui vise à combler les trous dans notre spécialisation. Vous avez entendu parler du plan batterie, du plan hydrogène, ouais, du plan intelligence artificielle.
Et de l'avion du futur, l'avion combat du futur, le SCAF.
Le fameux SCAF.
Mais sauf que c'est aussi un point de discorde avec l'Allemagne.
Justement, mais rien n'est jamais acquis. C'est ça qui est intéressant, c'est que à la fois nous avons pu faire de l'aéronautique un élément majeur de la spécialisation économique de la France, mais ça a permis également à l'Allemagne de rattraper son retard depuis la Deuxième Guerre mondiale, et donc il y a une espèce de tension entre la France et l'Allemagne. Mais je vous signale que lors du débat sur l'avion précédent, c'est nous, Français, qui avons décidé de faire le Rafale seul, alors qu'il y avait un programme européen qui était en cours de négociation. Et aujourd'hui, on le sait, Dassault fait des pressions fortes pour que le successeur du Rafale soit un avion français, puisqu'ils n'arriveront pas à assurer une maîtrise totale sur le SCAF.
Eh bien, on lira tout ça dans votre livre, Eli Cohen, La valse européenne, les trois temps de la crise, une valse à trois temps. On lira comment vous qualifiez cette Europe d'OPNI, objet politique non identifié, une construction improbable, mais qui a un avenir. C'est
on vous a
votre
pas demandé
optimisme.
Si vous étiez européen.
Vous êtes
pro-européen, pro-Europe.
Très optimiste pour l'Europe, malgré les crises. Merci beaucoup d'être venu parler ce matin, Eli Cohen, économiste et directeur de recherche émérite au CNRS. Le livre paraît chez Fayard. Il est 9h20.